Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
On a été obligé de les séparer pendant la pub. Emmanuel Le Chypre
et Marc Fiorentino.
Mais n'importe quoi, même pendant la pub.
Ah bon, oui. Mais on parle de l'immobilier. Emmanuel nous dit que ça va être une crise sans précédent.
Oui, mais après, il a dit le contraire. Non. Alors, vous allez voir. Mais en fait, c'est pas ce qu'il... Mais
pas du tout. Bon, Emmanuel Le Chypre.
Pas dit du tout le contraire. Là, on est sur un marché de l'immobilier à court terme, concrètement, si on raisonne dans la logique classique, offre-demande, crédit, etc., qui est en train complètement de se gripper. Vous avez le marché du neuf qui se grippe, le marché de la maison individuelle neuve qui est complètement à l'arrêt. Vous avez les prix dont on vous dit qu'ils vont baisser quasiment de 10% dans toute la France, et ils ont commencé à baisser partout. Le marché de la location...
À moins 0,8, nous dit la Forêt Immobilier. Hein.
Oui, mais...
Sur le premier trimestre.
Oui, mais il n'y a pas de transaction.
Sur le premier... Voilà.
Bah, moins 7% sur les ventes, c'est pas énorme.
Sur la location, c'est en train de se gripper aussi. Le tout sur fond de remontée des taux d'intérêt. Et je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur 10 qui disent qu'ils vont renoncer à leur projet immobilier dès l'instant où les taux auront passé 3%. On y est déjà. Donc... L'année 2023
on parle de quoi, là, de
et 2024,
ou de prix.
Non, on parle du marché immobilier classique. Les trois grands critères, c'est nombre de ventes, c'est évolution des prix et évolution du crédit. Et là,
les prix vont s'écrouler.
Donc les prix vont baisser cette année. Bah, le patron de Century 21, il te dit les prix vont baisser de 10%.
Oui, c'est normal. 10%
à peu près,
c'est pas une,
à peu près
une catastrophe annoncée
sur l'année. Ajoutez à ça le fait qu'il y ait de moins en moins de gens et qui peuvent se loger, effectivement. Et notamment, pourquoi le marché il est bloqué? C'est parce que même quand vous avez quelque chose à vendre aujourd'hui, que vous vous êtes endetté à 1% il y a 5, 10 ou 15 ans, et que là, vous reprenez un crédit pour effectivement avoir des taux à 3 ou 4%, eh ben ça le fait pas non plus. Donc les seuls qui peuvent aujourd'hui avoir la main sur le marché de l'immobilier, c'est les gens qui vont faire une énorme plus-value sur un bien qu'ils revendent et qui va leur permettre d'acheter autre chose. Voilà, c'est tout. Ça c'est pour les petits, ça c'est pour le petit marché immobilier, les petits
qui concerne 99%
des gens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les cycles habituels du marché de l'immobilier, etc. Le vrai sujet, c'est derrière la crise du logement qui se prépare et qui va être sans doute une des plus graves que la France ait connue depuis les années 50.
Bombe sociale, dit Olivier Klein.
Absolument, bombe sociale.
Marc.
Oui, alors on a plusieurs sujets, en fait, hein, dans ce que dit Emmanuel. C'est très confus, hein, ce matin. Hein. je suis désolé, donc je vais essayer de faire un peu de
clarté. Démêler
la pelote.
Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du prix. On est dans un réajustement qui est lié au fait que les taux d'intérêt remontent, donc c'est normal, il n'y aura pas besoin de s'inquiéter, on va avoir un réajustement des prix de 5 à 10%, réajustement qui va être freiné quand même par le fait qu'il va y avoir de moins en moins d'offres, parce que je le rappelle, si vous avez aujourd'hui un bien immobilier avec un crédit que vous avez renégocié récemment, vous n'allez pas le vendre.
Ouais.
Parce que si vous avez un crédit à 1,20, donc sur les prix... On
plus
est...
des promoteurs qui nous disent qu'ils ne construisent plus.
Voilà, alors ça c'est encore un autre sujet.
Ah bah ouais, mais ça veut dire
on a d'un côté les prix. Donc les prix qui vont baisser, mais compte tenu du fait qu'on n'a pas beaucoup d'offres, il ne va pas y avoir une baisse catastrophique sur l'immobilier résidentiel, parce que là aussi il y a plusieurs immobiliers. Ensuite, sur l'offre, là pour une fois je suis d'accord avec Manu, mais c'était confus, c'est-à-dire que là on a effectivement un problème d'offres. Alors un problème d'offres qui peut être compensé par le fait qu'on a une évolution, parce que Emmanuel regarde très de court terme, il ne regarde pas très loin, mais le télétravail change et modifie sensiblement les habitudes de travail, et donc on va avoir de fait un éloignement des centres qui va se faire du fait du changement d'habitude de travail. C'est-à-dire qu'on va avoir
déjà plus la tendance.
On va avoir des résidences semi-principales, on n'appelle même plus ça des résidences secondaires, on appelle ça des résidences semi-principales, et les résidences semi-principales vont être dans des lieux où le coût de l'immobilier va être moins cher. Donc on peut avoir un phénomène d'ajustement qui peut se faire dans la douceur, sans crise majeure, sans catastrophe.
Non, mais là, tu nous parles du monde grand bourgeois, des cadres supérieurs qui arbitrent, résidences semi-secondaires, etc., machin et tout. Mais
grand
c'est pas
bourgeois,
la mais oui, parce que c'est pas la réalité que vivent les Français
le
au quotidien.
Le peuple que tu connais.
Bah ouais.
Benaouda.
Et toi aussi, en plus. T'en as grandi dans les mêmes banlieues. Attends.
C'est pas complètement notre sujet ce matin, mais Benaouda, vous qui n'êtes pas confus,
vous pouvez raconter.
Allez-y.
On peut parler de notre enfance.
Non, ça n'intéresse pas.
Je m'abstiendrai pour ma part. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'exception française. Encore une fois, je reviens à cet article, cette enquête dans Focus, dans le magazine à grand tirage allemand, qui parle d'une ère glaciaire sur le marché immobilier en Allemagne, et qui donne exactement, vous pourriez remplacer Allemagne par France et vous avez exactement les mêmes sujets, c'est-à-dire objectif 400 000 nouveaux logements en Allemagne pour cette année, il faudrait des centaines de milliers de plus. Ouais. Les permis de construire où il faut certaines municipalités attendre plus de 10 ans en Allemagne, hein, je précise bien en Allemagne, et vous les avez toujours pas. La volonté politique de punir les promoteurs qui ont eu des conditions paradisiaques pour citer un ministre social-démocrate allemand, et l'idée que vous avez un tel écart entre l'offre et la demande que ça sera, de ce point de vue-là, une catastrophe pour les Allemands qui ne vont pas pouvoir se loger. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas une exception française, comme dans un tas d'autres sujets, il n'y a pas d'exception française, c'est aussi exactement le cas dans la première économie de la zone euro.
Marc. Alors, petit sujet juste boursier, hein, le mois de mars a été catastrophique pour l'immobilier coté sur la bourse. Hein. C'est plus de 25% de baisse sur les valeurs de l'immobilier, 26% sur les foncières cotées, ça a été une catastrophe.
Et ça, c'est les taux d'intérêt ?
Ça, c'est les taux d'intérêt, et c'est aussi les difficultés du commerce.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quand même une mutation du commerce qui est une mutation de fond, hein, structurelle, hein, le passage du commerce vers l'e-commerce, et donc on a des difficultés, on les a vues, toutes les enseignes qui sont en difficulté, et des baisses de volume.
Donc au final, quand on regarde quand même la colonne, ce qui est inquiétant et ce qui rassure, la colonne ce qui rassure, elle n'est pas très bien garnie, mon cher Marc.
Non, on parlait de catastrophe annoncée, les propriétaires qui vous regardent disent, est-ce que les prix vont s'effondrer ?
Ben non. Non, parce qu'il y a problème d'offres.
Alors oui, sauf qu'ils ont d'autres soucis, les
propriétaires. Non, mais c'est pas le sujet. Je dis
si,
sur les prix.
Sujet.
Sur
les
prix.
Les propriétaires, les investisseurs immobiliers, regarde la problématique après de tout ce qui les attend avec les contraintes environnementales, etc. 5 millions de logements, quand même, qui risquent de ne plus être
loués. Ils mélangent tout pour noyer le poisson.
Mais c'est pas du tout. Je te dis qu'on va au devant d'une crise du logement sans précédent depuis les années 50.
Maintenant que vous êtes bien chaud.
Les angoisses de petits propriétaires immobiliers.
Alors justement.
C'est peu par rapport à ce sujet majeur qu'est cette crise du logement qui s'annonce.
Je vous rejoins sur les problématiques environnementale. On était tout à l'heure avec Yann Géhando, le président de La Forêt Immobilier. Écoutez ce qu'il nous disait justement sur les questions énergétiques.
Il représente surtout une nouvelle charge financière supplémentaire pour les vendeurs. On parle d'un ticket d'entrée entre 600 et 700 euros pour réaliser ce nouveau diagnostic. Donc encore un coup d'épée supplémentaire pour ralentir, pour freiner les transactions. Est-ce que finalement ce nouveau diagnostic amènera plus de négociations, on le verra dans les prochains mois, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il risque d'y avoir un embouteillage auprès des diagnostiqueurs et de la filière diagnostiqueurs.
Parce que là, on parle d'une nouvelle règle à partir de demain, en plus du DPE, du diagnostic, il y aura le fait de devoir faire un audit, un devis en quelque sorte des travaux à faire. Si vous avez une maison ou un immeuble en pleine propriété, ça marche pas pour les appartements copro, mais c'est une nouvelle contrainte. Est-ce qu'on va trop vite sur ces règles effectivement environnementales pour le logement ?
On n'a pas le choix. Et puis on va s'habituer. On a eu le contrôle technique sur les voitures, personne n'en est mort.
Si on a le choix, on peut. Il y a d'autres options.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si vous rêvez. Si vous pensez un jour que vous réussirez à mettre à niveau le parc ancien aux normes environnementales, c'est exactement comme tout ce qu'on raconte sur il faut doubler la part des énergies renouvelables d'ici 10 ans dans le mix énergétique, et ben allons-y, etc. C'est totalement impossible. La réalité, c'est qu'il faudrait détruire et reconstruire. Voilà, et que... Alors c'est Jean-Hervé Lorenzi qui proposait un truc intéressant hier chez Nicolas Dos, c'était une clause du grand-père sur l'immobilier. Mais vous n'arriverez jamais à remettre aux normes environnementales nouvelles tout le parc immobilier ancien. C'est regardez ce que ça coûte de mettre à niveau et regardez ce que ça coûte de détruire et reconstruire. Je veux dire, c'est sans commune mesure.
Autre sujet de débat ce matin, la retraite. Est-ce que la France inspire les autres pays ? En tout cas, en Grande-Bretagne, on a reculé le calendrier de la réforme. Ben Aouda, je ne sais pas si on les inspire ou s'ils nous craignent.
C'est plutôt une crainte, parce que effectivement, c'était censé passer à 68 ans, enfin par palier bien entendu, mais le gouvernement hier, sur la base d'un rapport, a reporté ces 68 ans, en expliquant qu'il y a un problème de tassement de la hausse de l'espérance de vie, et donc il fallait refaire tous les calculs, et que c'était reporté aux prochaines législatives. Mais si vous voyez les commentaires sur la BBC, sur Sky News, dans le Times, c'est qu'il y a manifestement l'idée... Il ne faudrait pas tenter non plus le diable électoralement et que ça dégénère comme en France, en se disant que on sera pas puni dans les rues, contrairement aux Français, mais on sera puni dans les urnes en 2024. Et c'est ça la crainte fondamentale, avec l'idée encore une fois que les gens qui sont nés dans les années 1970 en Royaume-Uni et qui sont la tranche d'âge pivot dans les enquêtes électorales pour faire gagner ou non les conservateurs l'an prochain, ne veulent pas d'avoir une année de plus à cotiser, alors qu'on les prévient juste avant la législative. Et pour revenir à notre sujet de départ, les propriétaires au Royaume-Uni sont ceux qui votent le plus majoritairement conservateurs, et ils ont entre 45 et 55 ans. Et donc, ce report, c'est pour ne pas se fâcher avec cette tranche d'âge.
Un mot juste sur la situation en Espagne, où là, ils ont réussi une réforme des retraites. Ils ont confirmé les 67 ans et en plus, ils ont augmenté les cotisations. Tout ça avec Podemos. Hein.
C'est-à-dire, c'est vraiment le miroir de la réforme française. C'est-à-dire, en France, on repousse l'âge de la retraite. On ne demande pas aux plus favorisés de cotiser davantage, on ne met pas à contribution les entreprises, on n'a pas beaucoup consulté les syndicats et les autres partis avec qui il aurait pu être fait une coalition. En Espagne, ils ont discuté, ils ont négocié, ils ont effectivement mis à contribution davantage...
Ils ont mis à contribution les plus aisés, mais ils ne mettent pas à contribution les retraités. Mais c'est quand même important. Mais c'est très important, parce que tu dis qu'on se retrouve dans une réforme dans laquelle ils ont.
Concrètement, en France, on ne demande pas aux plus aisés de cotiser davantage.
Oui, mais là, ils ont fait le choix de préserver surtout le pouvoir d'achat des retraités, ce qui est aussi très électoral. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont les retraités qui bossent. Ouais. Et en fait, eux, ce qui est un peu étonnant, qui n'est pas forcément une bonne méthode, consiste à dire. En fait, alors eux, il faut rappeler quand même qu'ils sont déjà à 65 ans. Et qu'ils vont monter à 67 ans. Donc déjà, on n'est pas, quand on dit l'exemple français, on est quand même très loin. En Angleterre, ils sont déjà à 67 ans. Et en fait, le programme prévoit une montée à 70 ans de l'âge de la retraite. Hein. Donc on est quand même... quand vous parlez d'exemple français...
Ils n'ont pas eu à faire accepter, effectivement, le recul de l'âge de départ, puisque les 67 ans, c'est déjà une réforme de 2011.
Benaouda.
Ce qui est quand même frappant, c'est que le chef du Parti populaire, le Parti conservateur, donne pour exemple la réforme française en disant eux s'attaquent aux données fondamentales.
Un contre-exemple.
Exact. Non. Il dit j'aurais préféré la réforme française que la réforme socialiste. Mais c'est encore une fois dans une vision de politique intérieure.
Oui, parce que les socialistes augmentent les cotisations. C'est pour ça.
Et les socialistes disent en fait, nous, on veut un exemple. Le débat sur le fait de repousser l'âge de la retraite est un débat du passé. En fait, il faut faire payer les gens qui ont les rémunérations les plus élevées.
Allez, troisième débat, le chiffre vient de tomber, on vous l'avait promis, l'inflation en France au mois de mars. Finalement, c'est 5,6%. Ça veut dire que ça baisse par rapport au mois précédent, on était sur 6,3. Donc ça veut dire que la décélération, c'est maintenant. Il nous disait non tout à l'heure, Manu.
Mais vous l'écoutez ?
Je vous écoute d'abord, Marc, et après je compare.
D'accord, j'espère bien, sinon je m'en vais tout de suite.
Mais c'est la décrue qui commence ou pas ?
Mais c'est forcément, c'est pas la décrue qui commence, elle a déjà commencé. On le répète, on le dit depuis des semaines, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être devin. Il y a des facteurs dans l'inflation. Dans l'inflation, il y a l'énergie. Le gaz est au plus bas depuis l'invasion en Ukraine. Il y a le pétrole. Il ne remonte pas. Donc mécaniquement, je répète ce que j'ai toujours dit, on aura à la fin de l'année un taux d'inflation partout qui sera exactement la moitié du pic du taux d'inflation qu'on a eu. Donc on y va.
Mais Emmanuel pensait que ça prendrait un peu plus de temps parce que les prix de l'alimentaire continuent d'augmenter.
Il y a un timing français qui est un peu différent de celui qu'on a connu en Europe. D'abord, on a monté moins que les autres à cause de nos fameux boucliers. Après, on a bien vu que quand le bouclier est passé de 4 à 15%, il y a eu un effet sur le début d'année, ce qui fait que ça commençait à ralentir dans des pays où il y a eu moins d'aide. Le pays le plus pur pour ça, c'est les Pays-Bas. C'est celui qui a été le moins aidé. Et c'est là où c'est le plus intéressant. Et là, ça a commencé à baisser, effectivement. Et nous, on a une résistance qui vient de notre problématique sur les prix alimentaires, les négociations du mois de mars, etc. Mais effectivement, globalement, le recul...
Les chiffres espagnols sont spectaculaires.
De l'inflation, il est enclenché.
3% en Espagne contre 6% le mois d'avant.
On parle de décrue, c'est pas une baisse, c'est une décrue. Ouais. L'inflation va s'effondrer. Après, la question, c'est de savoir quel sera le taux terminal de l'inflation. Est-ce qu'on va atterrir à 1,5, à 2 ou à 4 ou à 3,5? Ça, on ne sait pas encore.
Benaouda.
Puis, pour parler de la moitié du pic, il suffit de regarder les cours, ce que j'ai fait en venant. sur Euronext, sur le blé et le maïs. En mai 2022, le blé, vous étiez à 430 € la tonne. Hier, vous étiez à 260 € la tonne. Le maïs, 370, 260. Ouais. Et ça, on en parlait hier ici, en Bulgarie, en Pologne, en Roumanie, ils ne savent plus quoi faire du blé qu'il y a dans leurs entrepôts parce qu'il y a le blé à prix cassé qui arrive d'Ukraine. Donc on est dans un changement de ce point de vue-là sur les céréales et donc sur ce que mangent les gens à peu près partout, qui est peut-être fondamental.
À noter quand même, on l'a dit, que l'inflation alimentaire est toujours élevée. La consommation des ménages a reculé de 0,8 en février.
Oui, alors c'est ça aussi qui est très intéressant, hein, c'est que les cycles économiques fonctionnent. Ouais. C'est-à-dire que l'inflation provoque la baisse de l'inflation.
On refait la machine.
Parce qu'elle provoque la baisse de la consommation. Ouais. Oui.
Provoque la baisse.
Oui, au bout d'un moment. Inflation forte fait que globalement. On a, mais c'est quand même agréable de voir les cycles économiques qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'une inflation provoque la baisse de la consommation, qui provoque de fait la baisse de l'inflation. Donc on est dans ce cycle-là, il faut rassurer.
C'est-à-dire qu'il y a un certain palier, en fait, dans l'inflation.
Non, c'est-à-dire qu'on est toujours très pressé, parce que des gens comme Emmanuel Le Chip, qui fréquentent trop de gens qui sont dans les marchés, veulent que ça aille trop vite. Mais nous, qui avons un peu plus de vision plus planétaire, évidemment, on se dit on a un peu plus de temps.
Est-ce que, alors du coup, la question, c'est est-ce que là, on est en train de refroidir la machine économique, ça fonctionne, la hausse des taux, on le dit, l'immobilier...
Non, mais il n'y a rien qui est lié à la politique. Non,
tout fonctionne.
Ah bah si,
l'immobilier... Dans les prix de l'inflation, il n'y a rien aujourd'hui qui est lié à la hausse des taux d'intérêt.
Évidemment que
bien sûr que non. Mais même le gouverneur te le dit. Le gouverneur, il te dit, quand il te dit 3% d'inflation en fin d'année, c'est pas lui qui s'y engage grâce à sa politique économique, c'est un pronostic. La réalité, c'est qu'on a eu des chocs d'offres, qu'on a eu des pénuries, et que tout ça est en train de se corriger, et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Après, l'impact de la politique économique, on va le voir ensuite, mais pour le moment...
On le voit sur l'immobilier, la hausse des taux, elle explique.
On parle des chiffres d'inflation, on ne parle pas de l'immobilier.
Évidemment, un monde qui passe de taux zéro à 4% d'inflation, ça a un impact sur tous les acteurs économiques.
4% de taux d'intérêt.
Mais évidemment, aujourd'hui, on voit très bien que des entreprises ne font pas les investissements qu'elles devraient faire, ne veulent pas s'endetter pour investir parce qu'elles se disent que les taux vont baisser, donc elles attendent un peu. Même chose pour les ménages, même chose pour la consommation. Non, les taux d'intérêt ont un impact aujourd'hui sur la croissance économique et donc sur l'inflation.
Les chiffres d'inflation aujourd'hui n'ont rien à voir avec la hausse des taux d'intérêt.
Benaouda.
C'est un sujet cher à Marc Fiorentino, c'est la greedflation, greed qui veut dire cupidité anglais.
Ceux qui en profitent.
Exactement. Et il y a une note très intéressante d'ING qui a été publiée hier en s'appuyant sur les statistiques des Statis, l'INSEE allemand, qui montre une forme de spirale profit-prix et qui font que dans la construction, dans l'agriculture, dans l'industrie aussi...
Dans l'agroalimentaire, cosmétiques, regardez les hausses de taux, les hausses de prix.
Beaucoup moins dans les services, mais en tout cas dans ces l'industrie classique, en Allemagne, vous parvenez à un gonflement de 10, 20, 22% des marges qui s'appuient sur cet effet d'aubaine.
C'est ça le vrai sujet.
C'est l'effet d'aubaine. Et d'ailleurs, le titre était intéressant de la note, c'est « Il ne faut surtout pas gâcher une bonne crise ». En l'occurrence, appuyons-nous sur cela pour gonfler nos marges. Mais ce qui est intéressant dans cette note, c'est qu'ils disent, et de ce point de vue-là, la Banque Centrale Européenne ne sait pas comment agir, ne sait pas quoi faire.
Des taxes, on peut faire quoi en fait pour lutter contre ça, à part taxer les profits?
On peut pas faire grand chose, c'est-à-dire qu'on a une réaction qui est après 10 ans où on n'a pas pu augmenter les prix, on était sous pression, où on vous disait dès que tu augmentes les prix, finalement on va pas commander puis on va ailleurs. Là c'est le lâchage complet, donc on profite de la hausse des prix, on fait passer tout ce qu'on veut, on amplifie, mais largement. De toute façon, il suffit de regarder les profits des entreprises. On voit dans le profit des entreprises l'amplification de la hausse des coûts. Alors après, ce qui fonctionne là encore en économie, c'est que c'est la demande qui va commencer à diminuer, c'est-à-dire qu'il y a un prix auquel
ça marche plus.
Ça marche.
Moins 0,8 la consommation des ménages.
La réalité, c'est que c'est aussi le résultat.
La sensibilité des ménages au prix.
C'est que c'est la baisse structurelle et tendancielle de la concurrence. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on pense qu'on vit dans un univers de plus en plus concurrentiel. Or, il y a plein de travaux qui vous montrent qu'on vit dans un univers de moins en moins concurrentiel. Et ça ne concerne pas, comme on l'a cru pendant longtemps, juste les GAFAM qui, on se disait, ça y est, ils sont en train d'écraser leur marché, il n'y a plus de concurrence. Non, ça concerne tous les secteurs de l'économie. Et c'est ça qui explique en partie, et là je suis d'accord avec Marc, une des principales surprises quand même, ce qui est la capacité des entreprises à faire passer les hausses de coûts dans leurs prix finaux.
D'ailleurs, la Banque mondiale a sorti un rapport hier disant que la croissance allait baisser, enfin, allait croître moins vite parce que aujourd'hui il y a des règles de concurrence qui sont de plus en plus difficiles.